Radio Barque numéro 4, la troisième partie est consacrée traditionnellement à l'invité, et c'est le cas bien évidemment aujourd'hui. Donc nous resaluons Jean-Louis Cosinus, qui est le président du RCNM Association. Alors le Racing, comme les gens disent en Narbonne, depuis plus d'un siècle, tout le monde connaît, mais on ne sait pas forcément quels sont les distinguos à faire entre le club professionnel maintenant, qui est, je crois, juridiquement une SASP, vous me démentirez, Jean-Louis, si je me trompe, et l'association que vous présidez vous-même. Alors, explication de texte, Jean-Louis Cosinus.
Bon, tout d'abord, bonjour. Bonjour à vous tous. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur cette double compétence, l'association et la SASP qui gère aujourd'hui l'entité Racing Club Narbonnais. L'association, c'est le démarrage de l'histoire du rugby à Narbonne.
Oui, depuis un siècle, c'est plus d'un siècle. Enfin, 1907, voilà. C'était ça.
C'est l'organisation qui a géré donc le rugby à Narbonne et dans toutes les villes et les villages de France. C'est une organisation, le rugby était loisir, amateur, et surtout amateur. Et donc avec l'avènement et le développement du rugby et puis l'entrée de l'argent dans le rugby, il a été nécessaire de créer des structures commerciales et des SASP. Voilà. Donc dans les dates marquantes de ce club, on a 1907 qui est la création de l'association, effective. En 1995, on commence à sentir que l'argent rentre dans le rugby, qu'il faut un petit peu organiser et que ceux qui s'y intéressent veulent aussi participer donc à la gestion du club. Et en 1995, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc le fameux RCN, comment ça s'appelait ?
Ajoute un M.
Ajoute un C, Racing Club Narbonne Corbière.
Exact, voilà. Exact, Jean-Louis.
Et donc là, on commence à rentrer quand même dans l'histoire du partenariat et du sponsoring, puisqu'on ne connaissait jusqu'alors que du mécénat, et c'était les membres bienfaiteurs qui alimentaient. Il y avait des grands membres bienfaiteurs, bien sûr.
Il y en a eu de très célèbres à Narbonne.
Et de très célèbres. Donc à 95, on sent ces prémices du rugby professionnel. Donc il a été nécessaire après, donc dès 98, et c'est la loi qui l'a instauré, de créer des sociétés commerciales. Puisqu'on rentre dans le secteur marchand, concurrentiel, ce sont des sociétés et d'événementiel. Et en 98, il a été créé donc ces sociétés qui s'appelaient les SAOS Sociétés à objet sportif, ça a été transformé en SASP. Ce sont des subtilités juridiques sur lesquelles on ne s'attardera pas, mais donc rester donc à gérer le problème professionnel de cette forme. Et donc la partie donc amateur et la partie formation, toute la partie amateur, n'allait pas rentrer dans la société professionnelle commerciale. Donc elle est restée sous l'entité d'association.
Voilà. Oui, c'est-à-dire que l'association a prévalu, a continué à exister. C'est les clubs professionnels qui ont créé ces nouvelles structures.
Alors, ce sont les associations qui ont créé. L'association, comme dans tous les clubs professionnels, c'est l'actionnaire historique des clubs. C'est-à-dire que quand il était nécessaire de créer ces structures professionnelles, c'est l'association qui, mécaniquement, abondait au capital, était actionnaire majoritaire, même unique, du capital des structures professionnelles. Seulement, on scindait les deux parties. Donc, tout ce qui rentrait dans le secteur marchand et toute la partie, donc, amateur et formation. Voilà.
Donc aujourd'hui, il existe, quand on va voir le Racing en Pro D2 par exemple, il s'agit des joueurs de la SASP, du club professionnel.
Tout à fait.
Voilà. Et puis, à côté de ça, bien entendu, il continue d'exister, cette association donc plus que centenaire que vous présidez. Et alors la question qu'on peut se poser maintenant aujourd'hui, c'est cette association, qu'est-ce qu'elle fait ? À quoi sert-elle ?
Donc l'association, elle a deux rôles, quoi, deux objectifs. Alors, c'est important de préciser que l'association du Racing Club Narbonnais, hein, parce qu'on est quand même un club, un professionnel un club historique qui fait partie des 30 meilleurs clubs de France. Donc, elle a une partie formation. Notre objet, donc, c'est de former les jeunes pour le haut niveau et d'amener le plus maximum de jeunes vers donc la filière élite. Ça, c'est l'objet par la formation premier. Mais nous avons quand même un deuxième rôle, nous sommes aussi une association. Nous travaillons en étroite collaboration avec les collectivités, avec la collectivité de la ville de Narbonne, et on a un travail quand même éducatif auprès de tous nos jeunes narbonnais. Tous. Et je veux dire, heureusement, tous n'auront pas un contrat professionnel. Donc dans les 600 jeunes que nous formons pour l'activité, nous avons une activité qui dépasse aussi dans le cadre de la formation pour l'élite.
D'accord.
Voilà. Alors donc, tous les jeunes, c'est évident, un gamin qui veut faire du rugby, il va aller au Racing, association, ça tombe sous le sens, c'est bien ça.
C'est tout à fait ça.
Oui. Minime, cadet.
Alors, on commence donc à l'âge de 5 ans, on a 6 sections. Hein. Donc sur l'organisation, c'est une... Je le dis, mais ça a été dit, c'est une des plus grosses associations en termes de rugby de France, pour connaître. On a 6 sections, en fait. Ça démarre donc l'activité à l'âge de 5 ans. Et ça termine donc à 23 ans, l'espoir, 22 ans maintenant. Donc les sections, ce sont l'école de rugby, 5-14 ans. Ensuite, les deux équipes, les capitaines cadets, donc 15-16 ans. Hein, 15 ans, 16 ans. Et ensuite, donc équipe junior, équipe espoir. Ensuite, donc, nous avons une équipe cadette féminine, une équipe senior féminine. Là aussi, il y a très très peu de clubs qui prennent en charge donc le développement du rugby féminin, en direct comme nous le fait à l'intérieur de l'association. Nous avons aussi créé une école d'arbitrage.
Donc, oui, donc on s'aperçoit finalement que c'est très complexe le Racing Association aujourd'hui. C'est une structure très complexe et très riche. Ce que les gens peut-être ne soupçonnent pas tout à fait.
Oui, parce que bon, c'est vrai que la vitrine aujourd'hui, la Narbonne, la vitrine, c'est l'équipe première. Ça a toujours été l'équipe première, même autrefois, quoi. Mais il faut savoir que ce qui régit le rugby français, l'organe régalien, c'est la Fédération Française de Rugby. Et la Fédération Française de Rugby, donc, c'est le grand patron du rugby français, puisque la LNR qui gère le rugby professionnel n'est qu'une délégation de la FFR. Voilà. Et donc ça, c'est important. Et on retrouve la même organisation, forcément, dans les clubs. Aujourd'hui, la structure qui porte le nom du Racing Club Narbonnais, le droit de jouer, la filiation, c'est bien l'association Racing Club Narbonnais qui donne, on pourrait expliquer, en concession, en location, le droit à une équipe professionnelle de jouer, sous le nom de l'entité du Racing Club Narbonnais.
Et il est resté Racing Club Narbonnais. On n'a pas ajouté le Méditerranée. Vous tenez à ça, à cette dénomination?
Alors, on a un dépôt de marque, hein, nous aussi, on est un truc, on a, dans nos... Dans notre organisation juridique et nos statuts, donc on a déposé deux logos et des entités, donc il y a le RCN et le RCNM.
Ah, les deux existent, mais alors quel est le distinguo, à quoi ça sert d'avoir deux noms et deux logos?
Aujourd'hui, donc RCNM, c'est Méditerranée, vous savez que le nom aujourd'hui est important puisqu'il y a des grands débats, et je vous ai écouté tout à l'heure sur la région, donc ça avait été lancé par ce logo par De Posia, qui me paraît très bien, puisque Méditerranée, ça rapproche Narbonne quand même, et ça donne une situation de Narbonne.
Et ça nous situe au bord de la mer.
Voilà, donc aujourd'hui, ça nous situe au bord de la mer. Aujourd'hui, donc on a conservé ce logo, mais c'est vrai que la racine de ce logo, qui pour moi doit être immuable, c'est le RCN. Donc demain, peut-être qu'on s'appellera RCNM ou RCNO Occitanie, j'entends des termes. Donc je crois que pour nous, l'important, c'est de garder justement cette racine, et c'est cette racine qui fera peut-être demain que on modifiera le nom, puisqu'on est là-dedans du merchandising, quoi, en fait, et du marketing. Donc il n'est pas impossible que demain ce logo évolue, quoi.
Donc la quatrième lettre n'est pas définitive.
Alors
pour moi, non.
Bon, à savoir, on y reviendra plus tard, peut-être dans des mois ou dans des années. Alors, je reviens sur quelque chose que vous disiez tout à l'heure, Jean-Louis Cousinus, pour essayer d'être clair le plus possible. Vous avez parlé d'école de rugby, ça c'est pour les petits. Il existe un centre de formation que les gens peuvent peut-être confondre, école de rugby, centre de formation. Or, il semble que ça ne soit pas du tout la même chose, parce que ça s'adresse à des publics différents. Et puis, en plus, ce centre de formation, on va y revenir, vous a valu parfois quelques bisbilles avec le club professionnel. Alors, ce centre de formation, qu'est-ce que c'est ?
Mais il est géré par l'association.
Le centre de formation aujourd'hui est géré à Narbonne, est géré par l'association. Il faut savoir qu'en France,
c'est pas partout pareil. Donc,
c'est pas partout pareil. Il y a 30 clubs professionnels, puisqu'il y en a 16 en Pro D2, 14 en Top 14. 16 centres de formation sont gérés depuis les structures associatives et 14 depuis les structures professionnelles.
Dont le RCN.
Dans le RCN. Alors il faut savoir que c'est en 2011 que le centre de formation donc a basculé à l'association, puisqu'il était à l'origine à l'association. Et puis il a basculé, je crois, dans les années 2006. Je n'étais pas président. Si mes souvenirs sont bons, c'était 2006. Il a basculé sur la structure professionnelle. Et puis en 2011, avec la crise financière 2011, il a été nécessaire de basculer cette charge financière sur l'association. Donc quand le Racing Club Narbonnais, donc je le rappelle, en 2011, avait été convoqué de près par la commission d'appel de la Fédération française de rugby, puisque la DNACG avait statué sur la révocation de l'équipe première, donc en fédéral. Donc il était important de présenter un budget à l'équilibre, et ce poids financier que représente le centre formation a été à ce moment-là basculé en 2011 à l'association.
Bon. Et alors comment expliquer, parce que là encore le quidam moyen a du mal à s'y retrouver, ces bisbilles, ces désaccords qu'il y a eu, paraît-il, à propos d'une dette financière, expliquez-nous tout ça, que les Narbonnais s'y retrouvent.
Oui.
Alors, donc, je vais juste, j'ai pas répondu à la question. Le centre de formation, c'est une organisation vraiment analytique où on va, qui permet de, en fait, d'accueillir vraiment tous les joueurs à fort potentiel.
Donc ça, c'est l'avenir, c'est un peu la réserve des pros.
Voilà. Donc, en moyenne, donc, on a entre 15 et 28 joueurs qui sont dans les centres de formation en France. Voilà. Donc, ces centres de formation, en fait, ils vont capter les meilleurs joueurs, bien sûr, du club, du territoire, mais aussi du monde, quoi. Hein. Donc, et l'important, c'est de vraiment donner donc à ces joueurs les moyens et les mettre en capacité d'accéder au plus haut niveau. Voilà. Mais en même temps, il y a un cas des charges quand même qui est très rigoureux. Ça, il faut le savoir, qui est imposé par la Fédération française de rugby et aussi la Ligue qui travaille en étroite collaboration. Il y a une commission mixte qui travaille sur ça, où on travaille sur la double formation, c'est-à-dire que les jeunes, vous le savez, quand c'est l'attrait de l'argent, l'attrait de la réussite sportive, font que on va à la tête baissée dans le sport, dans le rugby, on sacrifie tout, et puis à la sortie, il y a peu d'élus, et qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes? Donc, dans cette obligation et dans ce cahier des charges, on a la double formation, on prend en charge pour tous ces jeunes donc la formation scolaire et diplômante. Voilà. Donc c'est important, c'est très encadré, il y a un cahier des charges très rigoureux, très strict, et ça demande beaucoup de rigueur et une économie aussi conséquente.
C'est-à-dire qu'ils préparent un autre métier que celui du rugbyman.
Heureusement.
Oui, heureusement. Voilà, bien sûr. Michel.
Donc quand vous écoutez Jean-Louis, mais peut-être que j'ai mal compris, il y a quand même une certaine logique, en tout cas sportive et organisationnelle et financière, à ce que les centres de formation soient aussi gérés par les clubs professionnels. Narbonne est une exception, en fait, à la matière, si j'ai bien compris en fait, ce que vous avez signalé. Et deuxième chose, bon, vous avez bien expliqué que si le centre de formation était passé à l'association, c'était pour des raisons strictement financières et liées aux difficultés financières à l'époque du club professionnel. Donc, question, est-ce que... C'était l'idée, en fait, du patron actuel de Racine. Pourquoi donc cette cohérence, cette logique qui consisterait, sur un plan strictement financier et sportif, à ce que le club professionnel gère aussi le centre de formation, et aujourd'hui fait débat et est posé comme une équation qui remettrait en cause une histoire, une culture, en fait, voire même en fait, une philosophie sportive?
Donc, bon, plusieurs choses. D'abord, c'est pas une exception, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, 16 centres de formation sont rattachés aux structures, sur 30.
Voilà. Par contre, ce qui est clair, en tout cas, ce qui semble clair pour le quidam moyen, c'est que ça a engendré des problèmes entre les deux.
Il y a aussi
que vous avez dû résoudre.
Ce qui est clair, c'est que, effectivement, les jeunes qui rentrent dans un centre de formation se rapprochent d'une structure professionnelle, doivent avoir l'exigence. Je vous dis tout à l'heure aussi qu'il y avait d'autres, il y a un cahier des charges qui était important. Et après, chaque club, chaque ville aussi doit avoir une ligne de conduite, une politique qui met en place. Alors, chaque acteur de ce club aussi impulse une politique. Donc la politique que j'aime plus, moi, depuis que j'ai pris la présidence, parce que la présidente de l'association, je veux juste rappeler que je la prends en 2008. En 2008, c'est la prédécente, quoi. Donc on était dans une crise quand même structurelle qui était importante, quoi. Donc moi, je prends les destinées de cette association en main, et donc j'ai une politique sur la formation qui est bien établie. Donc pour moi, il est important qu'un centre de formation soit rattaché donc à la structure associative que je gère selon la politique que j'ai, ambitieuse que j'ai pour ce club, dès l'instant où je travaille pour l'équipe première derrière.
Hein ? Voilà. Eh bien, écoutez, c'est là-dessus que nous conclurons. Merci, en tout cas, d'être venu nous apporter un certain nombre d'éclaircissements sur des situations qui, effectivement, pour le Kidam moyen, ne le sont pas forcément. Merci, Jean-Louis Cosinus, président, donc, de la structure associative du RCN. Et je fais bien le distinguo. Peut-être un jour faudra-t-il employer un autre logo. Prochain invité sur ce Radio Barque, eh bien, la semaine prochaine, nous recevrons Michel Pi, qui est le maire de Leucate, qui est actuellement d'ailleurs conseiller régional et qui aspire à le redevenir. Mais nous l'avons évoqué tout à l'heure dans une chronique de Michel Santo, nous lui poserons toutes ces questions la semaine prochaine. Merci à vous et à la semaine prochaine.